Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.
Nous devisons aujourd'hui du projet Nano Dingue. Alors, on écrit nano avec un no. Alors, on comprend bien le no dingue dans le jeu de mots, bien entendu, mais pourquoi nano? Eh bien, nous allons en parler sous peu. Ce projet, ou plutôt cette étude, vise à évaluer la sécurité d'un potentiel vaccin contre la dengue administré pour la première fois chez l'homme et pour lequel une campagne de recherche de volontaires humains a cours. Alors, la dengue est une infection virale potentiellement mortelle, transmise par la piqûre d'un moustique infecté. Elle touche principalement les zones tropicales. Et évidemment, avec le réchauffement climatique, eh bien, ces zones s'étendent. En Suisse, c'est une des causes les plus fréquentes de fièvre au retour de voyage, mais de tout cela également, nous allons parler. Il n'existe aucun traitement spécifique. Peut-être les mesures prophylactiques se résument-elles, je suppose. Mais là aussi, c'est une question à la moustiquaire et à l'insecticide. Un vaccin reste le seul espoir donc pour l'élimination de cette maladie. Et pourrait définitivement protéger les 3,9 milliards d'êtres humains qui y sont exposés chaque année. Alors, ce vaccin est composé, justement, on en parlait tout à l'heure, en préparant cet entretien, de fragments de protéines inertes du virus de la dengue qui sont fusionnés à des particules d'or. Pourquoi ? Eh bien, de cela également, nous allons nous enquérir. Et voilà, est-ce accompagné d'effets indésirables ou de quoi faut-il, quelles sont les précautions à prendre dans le cadre de cette étude? Doctoresse Alix Nioton, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc chef de clinique à Unisanté, c'est le centre universitaire de médecine générale et de santé publique à Lausanne, précisément à la polyclinique de médecine tropicale, voyage et vaccination. Alors déjà, merci beaucoup de nous consacrer cette interview. Peut-on dire que jusqu'ici, nos informations sont-elles exactes et souhaitez-vous en démentir ou en ajouter?
Non, c'est tout à fait correct.
Très bien. Bah, je vous remercie, c'est déjà ça. Premier pas fait. voudriez-vous, en quelques mots, nous dire qu'est-ce que c'est Unisanté? Parce que voilà, nous sommes plus basés à Genève avec les HUG. Voilà. Alors, qu'est-ce que Unisanté et quel est votre rôle dans cette affaire? Car il va sans dire qu'on ne travaille jamais esselé dans ce type d'études, j'imagine.
Alors, Unisanté, c'est, comme vous l'avez bien dit, le centre universitaire vaudois de médecine générale et de santé publique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des activités cliniques, avec notamment la polyclinique de médecine générale, et puis aussi notre polyclinique pour les voyages et les vaccinations, et puis toute une activité de santé publique, donc de promotion, de prévention de la santé auprès de la population du canton de Vaud. Mon rôle, comme vous l'avez dit, je suis chef de clinique au sein de la polyclinique de médecine tropicale voyage vaccination et mon rôle dans l'étude, c'est de coordonner la mise en place de cette étude à Lausanne. C'est-à-dire que il y a un sponsor, Emergex, qui est une entreprise anglaise qui nous a mandaté pour mener cette étude à Lausanne. Et donc notre but comme site investigateur, c'est de mettre en place cette étude auprès des participantes et participants.
Très bien, je vous remercie. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, procéder en trois parties. Nous allons d'abord parler de la dengue, qu'est-ce que c'est, du vaccin, qu'est-ce que c'est également que ce vaccin, et enfin de la campagne de recherche de volontaires, qu'est-ce qu'on recherche, dans quel délai et pourquoi faire exactement. Est-ce que ça vous va comme ça?
C'est parfait.
Très bien. Alors allez, on commence tout de suite avec la dengue. Alors on l'a dit, c'est une maladie tropicale virale qui est transmise par les piqûres de moustiques. Alors dites-en-nous un peu plus.
Donc c'est une maladie qui est transmise par le moustique tigre, qu'on appelle aussi l'Aedes, et donc qui fait partie des arboviroses, du groupe de maladies arboviroses. Il y a 4 sérotypes en fait de virus contre la dengue, donc le sérotype 1, 2, 3, 4, ce qui veut dire que malheureusement, on peut être infecté 4 fois, en fait, par le virus de la dengue. La plupart du temps, la dengue ne fait peu ou pas de symptômes, mais dans quelques cas rares, donc de l'ordre de 1%, il peut y avoir des manifestations sévères. Et c'est pour cela que ça pose parfois un réel problème de santé publique. Donc, après la piqûre du moustique, en fait, 2 à 14 jours après la piqûre du moustique, on peut donc soit développer aucun symptôme, soit parfois avoir une sorte d'état grippal, donc un petit peu de fièvre, mal partout, mal à la tête, parfois aussi des symptômes digestifs. Il arrive aussi d'avoir des symptômes, une éruption sur la peau, en fait, comme la rougeole. Et puis, la plupart du temps, ces symptômes passent tout seuls au bout de quelques jours. Chez certains patients, donc comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des manifestations plus graves. C'est à peu près 1% des patients qui font une dengue, qui peuvent faire ce qu'on appelle une dengue sévère avec des complications hémorragiques. Donc, environ 10-14 jours après le début des symptômes, tout d'un coup, il peut y avoir des hématomes, et puis il peut y avoir un saignement au niveau des conjonctives, des gencives, et puis au niveau des organes internes qui peuvent mettre en danger le patient, voire mener à la mort, en fait.
Vous parlez de quatre souches distinctes. Est-ce à dire que on peut donc être contaminé par ces quatre souches, mais une fois qu'on l'est par une de ces souches, celle-ci deviendrait-elle inopérante?
Alors, en fait, par exemple, si vous attrapez une fois la dengue par le sérotype 2, vous êtes protégé contre le sérotype 2.
Mais pas
Mais
contre les autres.
malheureusement, pas contre les autres. Et au contraire, en fait, et c'est un des, disons, une particularité de la dengue, le fait d'avoir une fois une dengue par un sérotype vous met à risque, plus à risque, en fait, de dengue sévère lorsque vous êtes infecté par un autre sérotype. En fait, les anticorps que vous développez suite à une infection, par exemple par le sérotype 2, favorisent l'entrée du virus des autres sérotypes dans les cellules, ce qui peut mener à une maladie plus grave. Donc, c'est pour ça que c'est assez problématique. En fait, quand on a été exposé une fois à la dengue, on est ensuite plus à risque de faire une maladie sévère si on est réexposé. Ce qui est bien sûr le cas des personnes qui vivent dans des régions où la dengue est endémique, où il y a des cas continuellement, en fait.
Oui. Alors justement, quelles sont-elles ces zones endémiques? Y a-t-il effectivement un climat qui est propice? Qu'en est-il de nos contrées? Et puis, est-ce qu'également, troisième volet de la question, est-ce qu'il y a une différence entre voilà les villes et les campagnes ou ça c'est pas plus pertinent?
Alors, bah, actuellement, il y a de nombreuses régions où la dengue est endémique. Il y a toute l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, l'Amérique latine, les Antilles françaises, les îles Pacifiques. Donc, vraiment, la dengue est répartie de manière assez étendue à l'échelle du globe. Vous disiez tout à l'heure, hein, l'OMS estime qu'il y a 4 milliards de personnes, quasi 4 milliards de personnes qui vivent dans des régions où la dengue est endémique. Et puis, avec le réchauffement climatique, ces zones ont tendance à s'étendre. Et donc, on a vu une épidémie de dengue, par exemple, sur l'île de Madère, il y a quelques années. Il y a quelques cas de dengue maintenant dans le sud de la France. Donc, voilà, la répartition géographique du virus s'étend. Et puis, vous demandiez, c'était plutôt ville ou campagne, hein.
Oui.
Donc, les deux, mais plutôt, enfin, c'est plutôt une maladie urbaine. C'est des moustiques qui, les larves en fait de moustiques peuvent se développer dans des même petits volumes d'eau stagnante, des pots de fleurs laissés sur des balcons où il y a de l'eau qui stagne, ou souvent aussi on parle des pneus par exemple qui restent enfin voilà, à certains endroits où il y a de l'eau qui stagne et qui permet en fait aux larves de se développer. Et donc, c'est vraiment une maladie qui aussi est de plus en plus étendue dans un contexte d'urbanisation, avec des moustiques donc qui se développent facilement dans ces régions et puis qui piquent le jour.
D'accord, donc il ne faut pas s'imaginer une maladie qui n'existerait que dans un milieu extrêmement humide ou tropical, une rizière, une forêt dense, voilà.
Non, c'est plutôt un moustique urbain.
Ouais. Très bien.
Ouais.
Sommes-nous toutes et tous exposés de la même manière? C'est-à-dire que voilà les différents âges. On a parlé hein, de plusieurs infections possibles. Donc on a bien compris que dès lors que l'on est infecté une première fois, on est plus à risque encore. Donc d'où l'importance encore majorée du vaccin. Mais toute la population est-elle exposée de la même manière? Ou est-ce que selon les âges, ou selon le genre peut-être, ou que sais-je, eh bien on est un petit peu plus protégé ou moins face à la maladie?
Disons que les personnes qui sont frais, qui ont une santé fragilisée à la base, sont plus fragiles
Exposé, ouais.
à une infection de dengue, notamment ben, également les enfants en bas âge sont plus à risque de faire une atteinte sévère.
Voilà, donc effectivement, on peut considérer que les enfants sont durement touchés également. C'est une des populations à risque.
C'est une des populations à risque, oui, tout à
D'accord,
fait.
ouais, merci. Je parlais de mesures de prophylaxie, je parlais de voilà de moustiquaires et d'insecticides. Sinon, on ne traite que les symptômes.
Par rapport à la maladie, oui, malheureusement, on n'a pas de traitement curatif. Donc, une fois qu'on a la maladie, il n'y a que des traitements de support, en fait, de soutien. Donc, par exemple, du paracétamol pour faire diminuer la fièvre s'il y en a, ou pour diminuer les douleurs, mais on n'a effectivement pas de traitement curatif. Donc, on est relativement démunis, quoi, par rapport à cette maladie une fois qu'elle devient sévère.
Ouais. Alors, vous l'avez dit, pour les pronostics, eh bien, il y a ces 1% de dengue sévère qui, voilà, qui amènent des complications. Par la suite, est-ce que les personnes se rétablissent ou est-ce que, ben voilà, il peut y avoir dans la durée des problèmes de santé?
En général, une fois qu'on guérit de la dengue, donc il y a une phase où on est encore fatigué quelques jours, mais en général, il y a un rétablissement des symptômes. Après, bien sûr, c'est une généralité et puis il y a toujours des cas particuliers.
Ouais.
Mais en général, on en guérit tout à fait.
Très bien. Alors voilà, on l'a dit, c'est quasiment 5 milliards de personnes qui peuvent être potentiellement touchées par cette maladie-là. Alors parlons de ce vaccin. En quelques mots, tout d'abord, un vaccin, qu'est-ce que c'est?
Alors, ce vaccin, en fait, est composé de nanoparticules d'or, donc de toutes petites particules d'or, hein, sur lesquelles sont insérés des peptides, donc des bouts de protéines des quatre sérotypes de la dengue. Ces nanoparticules d'or, elles permettent de protéger, en fait, ces peptides d'une dégradation directe, c'est-à-dire que si on les mettait directement sous la peau, ces peptides seraient dégradés en quelques secondes et donc il n'y aurait aucun effet. Donc c'est pour ça qu'on les accroche, si je peux dire, à ces nanoparticules d'or. Donc le vaccin, il est administré en intradermique, donc juste une petite piqûre sous la peau pour mimer en fait une piqûre de moustique. Les peptides sont reconnus par les cellules du système immunitaire et le but, c'est de pouvoir, on espère, développer une réponse immunitaire pour la dengue. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir des anticorps contre certains sérotypes peut parfois prédisposer en fait à faire une maladie plus sévère si on est réexposé. Donc le but de ce vaccin, c'est de développer une réponse cellulaire pour pouvoir justement éviter ce risque d'augmentation de la maladie en cas de réexposition. Le but, c'est d'agir via une autre voie immunitaire, si je peux expliquer les choses comme ça. Là, c'est la première fois que ce vaccin est administré chez l'homme. Donc, il y a eu des études chez l'animal et c'est une étude de phase 1. Donc, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on administre ce vaccin chez l'homme. Et si les analyses de sécurité sont validées, le but, c'est d'utiliser cette plateforme pour d'autres virus, par exemple le Covid-19, à la place de peptides du virus de la dengue, des peptides du SARS-CoV-2, donc qui est le virus qui cause la maladie Covid-19.
Quand vous parlez de phase 1, donc ça indique que l'on teste des personnes. Y en a-t-il d'autres de phases? Combien et à quoi correspondent-elles?
Alors, dans les essais cliniques, il y a quatre phases. Donc, après les études précliniques qui sont faites chez des animaux. Donc, les phases 1, c'est la première étape sur quelques dizaines de participants en général, où le but, c'est vraiment d'évaluer la sécurité de l'agent qu'on souhaite tester. Et puis ensuite, il y a donc les phases 2, 3, 4. Les phases 2, c'est des phases où où on souhaite déterminer l'efficacité du produit et puis aussi déterminer la dose optimale du produit. Ça permet aussi d'avoir plus de données de sécurité parce qu'en général, les phases 2 sont faites sur quelques centaines de participants. Et puis, si la phase 2 est concluante, on passe à la phase 3, qui est cette fois sur plusieurs milliers de participants, où dans les phases 3, on fait vraiment une étude comparative d'efficacité où d'un côté, enfin, à un groupe de participants, on donne le produit administré, le produit d'étude, à l'autre groupe, soit un placebo, soit les produits qui sont actuellement commercialisés, en fait, le traitement standard actuel. Et puis, si les résultats sont probants, à ce moment-là, on peut passer le produit peut conduire à une demande d'autorisation de mise sur le marché. Et après cette phase 3, il y a encore une phase 4 qui est post-marketing, post-mise sur le marché, où là, c'est le suivi des effets secondaires à long terme et puis aussi les complications tardives qui peuvent survenir, quoi. Donc nous, le but, en fait, c'est de récolter toutes ces données de sécurité, que ça soit au niveau clinique, au niveau du laboratoire, des données aussi de ce qu'on appelle d'immunogénéicité, c'est-à-dire qu'on regarde si dans le sang, bah, il y a des cellules immunitaires qui répondent par rapport au virus de la dengue. Et puis, ces données, elles sont surveillées par des moniteurs qui sont externes et qui permettent de contrôler que l'étude se déroule convenablement. Et puis, à la fin de l'étude, on publie un rapport qui résume toute la situation. On a aussi un rapport annuel de sécurité qui est envoyé à notamment à Swissmedic.
Alors parlons de cette recherche de participants pour cette étude. Eh bien, en quoi cela consiste-t-il? Vous cherchez quel type de personnes et dans quelles conditions?
Alors, on recherche 26 participants adultes qui ont donc entre 18 et 45 ans et qui sont en bonne santé habituelle. Il faut aussi résider en Suisse. Et après, il y a plusieurs critères qu'on appelle des critères d'exclusion, en fait. On cherche des participants qui n'ont pas été vaccinés pour la fièvre jaune et qui n'ont pas non plus été exposés à la dengue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vécu plus d'un an dans une région où la dengue est endémique et qui n'ont pas prévu de voyager dans une région où la dengue est présente pendant l'étude. L'étude dure 6 mois. Mmh. Pendant ces 6 mois, il y a 12 rencontres, en fait, avec l'équipe soignante de l'étude. Il y a 9 rencontres en présentiel et puis 3 téléphones. La première visite, elle vise à savoir est-ce que c'est possible de participer à cette étude, est-ce que au niveau des critères cliniques et puis des critères de laboratoire, tout est en ordre. Ensuite, la visite qui suit, c'est une vaccination. Il y a ensuite des visites de suivi pour s'assurer que tout se passe bien après la vaccination. 21 jours plus tard, il y a une deuxième vaccination. Et puis ensuite, c'est des visites de suivi jusqu'à donc la dernière, qui est 6 mois après la première vaccination.
D'accord, donc on l'entend bien. Il y a un accompagnement tout à fait méticuleux et régulier pour les personnes
Exactement, parce que c'est vraiment le but de l'étude,
ouais.
De pouvoir suivre de près les personnes vaccinées pour pouvoir recueillir toutes leurs éventuels effets secondaires. On espère qu'il n'y en a pas, mais c'est vraiment le but de l'étude de pouvoir les répertorier et les analyser.
Et donc les personnes le disent, témoignent lors de ces visites. Est-ce que voilà, on les invite à tenir un petit carnet peut-être ou à prendre des notes de temps en temps pour dire en fait non, RAS, tout va bien, ou c'est vraiment les visites qui font foi?
Alors exactement, il y a un journal du participant qui est pas tenu pendant 6 mois, hein, parce que ça serait un peu rébarbatif pour les participants, mais pendant les 2 semaines qui suivent la vaccination, chaque vaccination, mmh. Où ils peuvent justement répertorier leurs symptômes, etc.
Quels sont les risques, selon vous? Évidemment, c'est la question qui affleure les personnes qui vont écouter nos propos. Que risque-t-on à participer à cette étude?
Bah, comme c'est la première fois que le vaccin est administré chez l'homme, on ne peut pas vraiment dire quels sont les risques exactement. Ce qu'on peut dire, c'est que toutes les études précliniques ont été faites en bonne et due forme et que Swissmedic estime qu'il y a un profil, disons, acceptable par rapport au risque, mais justement, c'est le but de l'étude de phase 1. Il n'y a pas eu de signal de sécurité chez les animaux et c'est pour ça que l'étude peut commencer chez l'homme.
Voilà, donc on comprend bien que c'est effectivement pour évaluer les risques que l'étude est menée, mais qu'on a tout de même une idée de ce qui peut au pire se passer, je veux dire.
Ben c'est pour ça que le processus est de demander l'autorisation à Swissmedic, parce que c'est justement Swissmedic qui analyse toutes ces données de sécurité préclinique pour pouvoir statuer.
www.unisanté.ch. On y trouve toutes les informations dont on a parlé jusqu'à présent, avec notamment également une affiche. Et puis, comment est-ce que l'on vous contacte? Là, je parle à la place des personnes qui souhaiteraient participer. Comment est-ce qu'on fait?
Alors, si vous êtes intéressé à participer à l'étude, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse nano-dang, donc N-A-N-O, le petit tiret du milieu, dang, D-E-N-G-U-E, @unisante, donc U-N-I-S-A-N-T-E.ch.
Et alors,
et
oui.
On reprendra contact avec vous rapidement.
D'accord. Et alors, voilà, pourquoi nano-dang? Pourquoi ce jeu de mots?
Parce que donc c'est des nanoparticules d'or, et puis nos dengues, parce que justement le but c'est quand même d'éradiquer cette maladie qui met à risque de plus en plus de personnes sur la planète.
Docteur Essalix Mioton, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations.
Merci à vous en tout cas de nous avoir permis de parler de cette étude.